Qu'est-ce qu'on ignore dans le monde francophone dans l'histoire de Stepan Bandera? Quel était le destin des Ukrainiens pendant la Deuxième Guerre mondiale? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Zenon Koval, diplomate, délégué général honoraire du gouvernement francophone de Belgique, Wallonie-Bruxelles, conseiller général à l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles dans les années 92-95. Le père de Zenon Koval a quitté l'Ukraine lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a survécu à Auschwitz et fondé une famille en Belgique. Zenon, son fils, est devenu diplomate qui travaille depuis des décennies pour soutenir l'Ukraine. Bonjour Zenon. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à son podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme diplomate qui vit en Belgique, à Bruxelles, que tu travailles beaucoup, plusieurs décennies déjà, dans l'intérêt aussi de l'Ukraine. Mais on te connaît aussi quelqu'un qui a des liens très directs avec l'Ukraine, donc la famille est ukrainienne. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire familiale qui est aussi le produit de ce siècle précédent, très tragique dans l'histoire de l'Ukraine?
Oui, bien évidemment. Donc, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis né à Bruxelles en 1954 de parents ukrainiens. Mes parents sont arrivés d'Ukraine après la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était déporté, prisonnier dans les camps de concentration allemands. Il était prisonnier à Auschwitz. La famille de ma mère a été déportée pour les travaux en Allemagne. Puis mon père a pu, après être passé par les camps de personnes déplacées en 1945, donc Augsbourg, Regensburg sont des camps qui étaient en Bavière, il a pu finalement obtenir, après avoir essayé deux, trois fois de franchir la frontière pour aller vers la Belgique, parce que tous ceux qui étaient dans les camps ne rêvaient que d'une chose, c'est de pouvoir continuer à vivre, à travailler, à étudier pour un grand nombre d'entre eux. Il a pu finalement obtenir une bourse via le Vatican. On avait un évêque ukrainien qui était là, Ivan Butchko, qu'on appelait d'ailleurs l'évêque des réfugiés, parce qu'il essayait d'aider tout ce qu'il pouvait. Et donc mon père a obtenu une bourse pour venir ici en Belgique à l'université catholique de Louvain. Et donc il a pu terminer ses études ici. Parallèlement, la famille de ma mère, qui avait deux frères aînés qui étaient en âge de travailler, ils ont signé un contrat pour travailler dans les charbonnages. Donc, dans le cadre du plan Marshall, on relançait l'économie européenne, l'industrie, etc. La Belgique était un pays qui avait une forte industrie lourde, donc tout ce qui était acierie et charbonnage. Et donc, les deux frères aînés de ma mère ont signé un contrat. C'était des contrats de 2 ou 3 ans, je ne pourrais plus dire exactement. Et ils sont venus dans la région de Charleroi. Et mon père et ma mère se sont rencontrés. La famille de mon père était restée en Ukraine. La famille de ma mère, après les 2-3 ans de mes oncles dans les charbonnages, ont émigré vers les États-Unis, où ils avaient la famille. Et alors, la petite famille Koval, c'est le nom de famille donc, de mon père, est restée en Belgique entre les deux superpuissances de l'époque, donc les États-Unis, où résidait la famille de ma mère, et l'URSS et l'Ukraine, où résidait la famille de mon père. Et donc, le petit havre de paix dans lequel nous avons pu nous retrouver, c'était la Belgique. Et c'est là que j'ai vu le jour et que j'ai commencé à m'intégrer dans une société, tout en préservant, disons, des racines ukrainiennes, la langue, la culture, etc.
Et vous étiez quatre dans la famille, quatre enfants dans cette famille. Est-ce que les Russies de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une expérience absolument affreuse pour ton père et pour ta mère aussi, est-ce que des récits, c'était des récits que tu entendais dans ton enfance?
Alors, les parents, en principe, ne parlaient pas de ces choses-là, mais ils recevaient souvent des invités, des amis, et donc, de temps en temps, dans les discussions, bon, on entendait parler de choses de ce genre-là. Et puis, à un certain moment, quand on a eu 5-6 ans, bon, on était très curieux, on observait beaucoup de choses, et on a vu que mon père, sur son avant-bras gauche, avait des chiffres qui étaient tatoués, le numéro 49-730. Alors, on a demandé à papa, mais qu'est-ce que c'est? Et il a dit ça, c'était quand j'étais prisonnier dans le camp de concentration à Auschwitz. Quand on nous enregistrait, eh bien, on prenait une plume avec de l'encre et on nous gravait ça dans la peau. Et c'était mon numéro de matricule. Et donc, mon père ne parlait pas de lui-même de ces choses-là, mais quand on lui posait des questions, il répondait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre tout ce qui s'était passé dans les camps, pourquoi mon père a été arrêté, et du côté de ma mère, bon... Bah, et de la famille qui venait de temps en temps des États-Unis pour rendre visite, etc. Donc, on a entendu parler d'autres choses.
Mmh. Donc, c'est comme ça que tu avais appris toutes les horreurs, parce que quand on prononce même aujourd'hui Auschwitz, on pense tout de suite à cette catastrophe humaine incroyable, d'une ampleur incroyable, et donc toutes les cruautés qui étaient là. Et donc, voilà, c'est sans doute très éprouvant aussi pour un enfant que de savoir tout cela.
Mais on n'a pas parlé tout de suite des horreurs. Mais comment ne pas parler des horreurs, évidemment, parce que mon père avait été battu. Bon, on les emmenait faire des travaux donc complètement absurdes et très lourds à gérer. Et donc mon père racontait certaines histoires sur ses collègues d'emprisonnement. Il nous a raconté comment les prisonniers politiques ukrainiens qui étaient, parce qu'il était prisonnier politique en tant que nationaliste ukrainien. Donc du groupe de Bandera, qui était le chef nationaliste ukrainien le plus connu à l'époque, et qui était suivi par un grand nombre de jeunes en Ukraine occidentale surtout. Donc il a raconté comment il a vu sous ses yeux se faire assassiner un des deux frères de Bandera. Ce sont des histoires qui marquent, on retient ces histoires-là. Puis il a parlé d'autre chose, il a dit comment les Ukrainiens, la solidarité du groupe, donc des prisonniers politiques ukrainiens entre eux, et il les a comparés à un groupe de Français qui était arrivé un peu plus tard. Il y avait une centaine de Français, et les Français qui étaient arrivés là ne s'entraidaient pas. Ils sont venus là en se disant on est condamné, c'est foutu, on n'a plus rien à faire. Ils ne se lavaient plus, ils ne se rasaient plus, ils se laissaient aller, et après quelques semaines, bon... plus que 10 ou 15% de personnes qui vivaient parmi les membres de ce groupe, alors que les Ukrainiens s'entraidaient à fond. Donc, si l'un des Ukrainiens pouvait travailler quelque part dans la cuisine et pouvait récolter quelques épluchures de pommes de terre pour le donner à quelqu'un qui était malade et qui avait besoin de manger et de se renforcer, eh bien, ils se serraient la ceinture encore plus et ils essayaient de s'entraider pour ceux qui en avaient vraiment besoin.
Oui, donc ce sens de la communauté qui d'ailleurs est très visible même aujourd'hui, donc on peut parler des choses historiques aussi qui restent dans le temps. Aujourd'hui, on est souvent confronté à des histoires de cette cruauté, comment survivre dans les conditions inhumaines. Je pense notamment à l'histoire de Igor Kozlovski, c'est un philosophe, connaisseur des religions de Donetsk, qui a décrit à plusieurs reprises ce qu'il a vécu pendant son emprisonnement à Donetsk, et c'est que comment rester humain et comment rester en vie déjà dans les circonstances aussi éprouvantes que le camp de concentration hein, pour ton père. Quel souvenir avait ton père de Bandera, qui est aujourd'hui une figure mythique, très contestée bien sûr, parfois contestée par les uns les autres, entourée beaucoup de mensonges aussi. Qu'est-ce que ton père, qui connaissait personnellement Stepan Bandera, qu'est-ce qu'il racontait?
Bandera, donc, je sais que Bandera, donc pour des raisons, je veux dire, d'affinité politique, venait de temps en temps en Belgique. Je sais qu'il a rencontré mon père. Et mon père parlait de lui plutôt. J'avais été de façon fortuite lors d'une de ses visites de Bandera. Bon, j'ai vu qui était Bandera, on ne l'appelait pas Bandera tout d'abord, mais on disait que c'est l'oncle un tel, parce qu'il ne fallait pas révéler l'identité de la personne qui était là pour des raisons de sécurité tout d'abord. On savait qu'il était sur la liste de personnes à abattre par le KGB. Et on ne prenait pas de photos à ce moment-là. Donc moi, je suis né en 54. Bandera était venu, donc le moment dont je me souviens que mes parents m'ont rappelé, c'était en 1958. Donc j'avais 4 ans à l'époque. Donc je sais que Bandera nous avait apporté des petits cadeaux, des petites babioles, comme on était des enfants. Donc c'était une personnalité assez joviale. Et mon père me l'a présenté comme une personne très curieuse de tout ce qui se passait dans le monde, de l'évolution, de la technologie, etc. Et il faut que je vous rappelle qu'en 1958, à Bruxelles, il y a eu cette exposition universelle, dont est resté un monument célèbre aujourd'hui à Bruxelles, qui fait l'attraction des touristes, et qui s'appelle l'Atomium. Et donc Bandera était venu voir cette exposition universelle, voir les différents pavillons nationaux où on présentait toutes les nouvelles, les nouveaux progrès technologiques, culturels et autres, etc. Et donc c'était un homme curieux de son époque et de l'évolution du monde. Donc ce n'était pas quelqu'un de figé, de rétrograde et de conservateur.
Donc voilà, et donc il est resté, donc si je me trompe pas, il est resté juste une année. Donc si tu parles de l'année 1958, non?
Exactement.
Donc il est resté une année à vivre, hein, n'est-ce pas?
Oui, on l'a assassiné en octobre 59 exactement à Munich, et donc il était là l'été 58 à Bruxelles pour voir cette exposition universelle.
Oui, donc voilà, tu gardes ce souvenir voilà, sur Bandera qui est absolument précieux parce que voilà, il est devenu, nous avons vu des soldats russes entrer en Ukraine après cette grande invasion russe qui cherchaient, et ça c'est pas une blague du tout, dans les villages, que ça soit au nord, que ça soit à l'est, cherchaient Bandera. Donc c'est-à-dire qu'ils sont convaincus jusqu'à aujourd'hui que Bandera, elle existe, qu'il est peut-être immortel. Donc pour eux, c'est, voilà, c'est un mythe qui existe, c'est un peu, voilà, quelqu'un qui existe.
Il devait chercher l'esprit de Bandera, mais un esprit, ça ne se tue plus, c'est sa vie, sa propre vie.
Oui. Comment est-ce qu'on a déjà abordé la question de Bandera? Donc, on sait que, voilà, quand on prononce le mot nationaliste et quand on est en Europe, le mot nationaliste a des connotations tout à fait souvent négatives dans le monde francophone. Est-ce que dans ta vie, dans la vie de ta famille, t'as dû à expliquer, argumenter, voilà, essayer d'éclairer qui était Bandera? Est-ce qu'il est, voilà. Et donc, voilà, relever ce défi des accusations qui étaient parfois fausses.
Bah, écoute, ça m'est arrivé. J'ai très vite senti que quand on parlait de nationalisme, c'était une notion qui était très mal perçue ici. Et donc, je parlais plutôt de patriotisme que de nationalisme. Parce que très souvent, en Ukraine, ce qu'on appelle nationalisme, c'est du patriotisme. Et donc, il faut comprendre ça dans le contexte d'une population ou d'une nation qui n'a pas de pays. Et donc, pour eux, rétablir, je veux dire, l'identité nationale et l'histoire à propos d'un pays et reconquérir un pays, bon, c'est un nationalisme patriotique. Ce n'est pas un nationalisme exclusif où on dit qu'on n'aime pas les autres, qu'on veut combattre les autres. Non, on veut tout simplement recueillir ce qui est sien. Donc, c'est revenir à ses propres racines et pouvoir vivre librement comme n'importe quel autre pays ou nation au monde. Et donc, j'ai été très rapidement amené à devoir faire cette différence. Par rapport à Bandera, une chose que je rappelais souvent donc à mes interlocuteurs, qu'ils critiquaient, oui, mais c'est un fasciste, un collaborateur, etc. Mais je dis, est-ce que vous connaissez beaucoup de collaborateurs qui se font mettre en prison et dans des camps de concentration par les personnes avec lesquelles ils collaborent? N'oublions pas que Bandera a été emprisonné par les Allemands dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Deuxième chose, on parle très souvent de collaboration. Moi, je crois que Bandera, d'un point de vue politique, il a essayé, pour réaliser son objectif, c'était quoi? C'était de rendre l'indépendance à l'Ukraine, de reconquérir l'indépendance de l'Ukraine. Et donc, il a essayé d'exploiter tous les moyens qu'il avait pour parvenir à cette fin. Comme cette partie de l'Ukraine où il habitait à l'époque, entre les deux guerres, était une partie qui était sous tutelle polonaise. Donc le principal ennemi à l'époque, et on connaît la politique de pacification qui avait été menée par Pilsudski au début des années 30, etc., qui n'était pas une politique très favorable aux Ukrainiens, puisqu'on fermait les écoles ukrainiennes, on limitait l'apprentissage de l'ukrainien, on fermait les églises gréco-catholiques ou orthodoxes, etc. Et donc c'était une période de polonisation, et donc les Ukrainiens qui vivaient dans cette ère-là s'opposaient à cette politique de polonisation du pays. Nous savons que Pilsudski envoyait aussi, avait pratiqué une politique, je veux dire, de colonisation de cette partie de l'Ukraine qui appartenait à l'époque à la Pologne. Donc l'ennemi principal était la Pologne. On savait aussi ce qui se passait du côté de l'URSS, dans l'autre partie de l'Ukraine, avec le Holodomor, donc la terrible famine artificielle provoquée par Staline. Mais du côté polonais, donc on regardait qui, avec qui pouvait-on s'allier pour reconquérir l'indépendance de l'Ukraine. La Pologne était soutenue principalement par la France et la Grande-Bretagne. Donc difficile de s'allier avec les Français ou les Britanniques, puisqu'ils soutenaient la Pologne. Qui restait comme seule puissance avec laquelle on pouvait éventuellement discuter? Eh bien, c'était les Allemands. Puis n'oublions pas qu'il y a eu le pacte Molotov-Ribbentrop, donc entre Staline et Hitler, en 1938 ou 39. Et donc c'est difficile de pouvoir se frayer un chemin politiquement et de voir avec qui s'allier. Et donc, comme l'Allemagne était l'ennemi principal de la Pologne suite au pacte Molotov-Ribbentrop, on sait que la Pologne a été divisée entre l'URSS, c'est-à-dire entre Moscou et Berlin. On ne pouvait pas s'allier avec les Russes, donc les seuls qui restaient étaient les Allemands, puisqu'on ne pouvait prendre ni les Anglais, ni les Français, ni les Russes. L'Allemagne était le seul pays avec lequel on pouvait discuter. Et donc, c'est pour des raisons purement objectives à l'époque que Bandera a essayé de voir avec les Allemands ce qu'il pouvait faire pour délivrer son pays. S'il était vraiment un collaborateur, on dit qu'un collaborateur est celui qui ne poursuit pas d'objectif personnel dans une alliance. Un collaborateur est celui qui exécute les ordres de celui qui est considéré comme le chef ou le boss, disons, d'une alliance. Bandera, dès que la guerre a été déclarée contre l'URSS en juin 1941, quand les troupes sont arrivées à Lviv, en Ukraine, donc les troupes allemandes, il a proclamé le renouvellement de l'indépendance ukrainienne. Et ça a rendu fou de rage Hitler, qui a dit « Arrêtez-moi toute cette racaille, c'est quoi ces Untermenschen, c'est moins que rien, c'est qui proclament leur indépendance face à la toute-puissance du Reich. » Et donc mon père, qui avait 21 ans à l'époque, a été arrêté par les Allemands en septembre 1941 dans la vague d'arrestation qui a suivi la proclamation du renouvellement de l'indépendance de l'Ukraine le 30 juin 1941 par les nationalistes ukrainiens, comme on les appelait à l'époque, mais qui étaient en fait beaucoup, c'était un groupe beaucoup plus large qui avait été réuni, donc qui avait créé un gouvernement, etc., pour renouveler l'indépendance de l'Ukraine.
Oui, oui, donc tout à fait. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, tu grandissais dans la société qui semblait être en tout cas éloignée, n'est-ce pas, de ces, comme tu as dit toi-même, de grandes puissances. Donc, d'un côté, Union soviétique, où bien sûr la famille ne pouvait pas rentrer, et puis d'autre part, les États-Unis. Et donc, c'était des décennies aussi où on parlait peu de l'Ukraine, n'est-ce pas? L'Ukraine, après la Deuxième Guerre mondiale, est entrée dans cette phase peut-être invisible, hein. Donc elle était une république parmi d'autres, donc identité ukrainienne était rasée, inexistante, et donc de grandissez dans ces sociétés-là, vous continuez à parler ukrainien à la maison, n'est-ce pas?
Bien évidemment. Donc une chose qui est arrivée très tôt chez nous à la maison, c'est que bon, quand j'avais 4-5 ans, et qu'avec ma sœur aînée qui a presque 2 ans plus que moi, on commençait à parler un peu français à la maison. Mon père nous a entendus, il a dit « Qu'est-ce que j'entends là? Vous parlez quelle langue ici ?» Nous, on est restés bouche bée, et puis on a entendu notre père qui nous a dit « Ici à la maison, on parlera ukrainien, et on ne parle qu'ukrainien. » Là, derrière la porte, il nous montrait la porte de la rue, on pouvait parler toutes les langues du monde, tout ce que vous voulez, mais ici, ce sera l'ukrainien. Et c'est comme ça qu'on a préservé l'ukrainien. Donc ça, c'était une chose. Chez nous, à la maison, on a poursuivi à pratiquer, je veux dire, les traditions ukrainiennes pour Noël, pour Pâques, etc., parler ukrainien, chanter ukrainien. Petit à petit, on a appris à lire l'ukrainien, etc. Donc, c'était un îlot ukrainien. Et comme mon père était responsable de la communauté ukrainienne ici en Belgique, il y avait souvent des réunions, des assemblées générales de différentes organisations ukrainiennes dans la maison où on habitait. Et donc, on était baigné dans ce cadre ukrainien. Et donc, j'ai grandi un peu comme un schizophrène. Donc, j'avais une jambe ukrainienne, une jambe belge, et je devais aussi m'intégrer dans la société belge dans laquelle je vivais. Moi, j'ai appris le français sur le tas. Tout d'abord, quand j'étais gosse, quand je partais dans la rue, j'entendais la langue. Il y avait une autre langue que je devais maîtriser. Et il se fait que quand j'étais à l'école belge francophone, j'étais toujours premier de classe dans les matières de langue. La langue française. Pourquoi ? Parce que mes petits collègues pensaient connaître le français alors que moi je vais l'apprendre. Et donc j'étais excellent en analyse, en grammaire, en exercices oraux, etc. Et donc c'était très intéressant. Et toute ma vie en fait, en tout cas dans ma jeunesse, j'ai essayé de voir comment je pouvais réunir ces deux jambes pour soutenir un corps qui soit bien bâti, bien équilibré, et qu'il puisse y avoir des passerelles entre ces deux univers qui, pour moi, étaient complètement différents. Et il faut savoir qu'à l'époque aussi, donc, tu évoquais ce point, donc l'Ukraine n'existait pas, on ne parlait pas de l'Ukraine. Très souvent ici, URSS égalait Russie, et donc on oubliait qu'il y avait 15 républiques à l'intérieur de l'URSS. Et quand on avait des exercices oraux, par exemple, à l'école, eh bien, il m'arrivait de parler de l'Ukraine. Voilà, donc pendant 5 ou 10 minutes, je parlais de l'Ukraine à mes petits amis. Bon, j'ai parlé, par exemple, de la résistance ukrainienne après la Seconde Guerre mondiale, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ça a intrigué tout le monde. On m'a posé beaucoup de questions. Et puis, j'étais à côté d'un élève qui était d'origine italienne, un Sicilien. Il a dit, tiens, il parle de l'Ukraine, mais moi, je vais parler de l'Italie. Et il a commencé à parler de Mussolini et du fascisme. Donc, c'était assez intéressant, quand on avait 12-13 ans, de pouvoir débattre de sujets de ce genre-là à l'école.
Oui. Ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est que grâce à ta famille, à tes parents, justement, vous avez préservé cette identité ukrainienne rien qu'à la maison. Donc voilà, suivant cet ordre du père qu'ici on parle ukrainien, tandis que les gens ukrainiens qui étaient en Union soviétique, c'était des années de la russification assez massive. Voilà, mes parents qui sont de la même génération que toi, ukrainophones dans leur enfance, dans leur village respectif, dès que tu continues ta carrière avec une université à la capitale, par exemple, donc tu passes au russe. C'est-à-dire que voilà, cette identité ukrainienne était vraiment très contrôlée, très réduite pendant les années soviétiques. Et donc, c'est d'autant plus paradoxal de voir qu'à l'étranger, cette langue ukrainienne, et la culture ukrainienne, donc ce n'est pas uniquement la langue, mais ça aussi la culture, les fêtes que tu avais évoquées, Noël, les traditions, c'était préservé d'une manière assez solide et peut-être plus solide que dans plusieurs villes ukrainiennes durant l'époque soviétique. Et donc,
c'est possible, mais je vais dire, pour corriger un peu le tir, si tu permets, ça dépendait aussi des familles. Donc il y avait des familles qui étaient plus conscientes que d'autres. Certaines familles ne cherchaient qu'une chose, c'est-à-dire à s'assimiler le plus rapidement possible, commencer à parler français ou néerlandais, parce qu'il y a aussi la langue néerlandaise en Belgique qu'on appelle le flamand couramment. Ils essaient de parler ces langues-là avec leurs enfants, mais c'était leur rendre un très mauvais service, parce qu'ils ne maîtrisaient pas cette langue comme il faut. Et puis à la fin, les enfants qui grandissaient, qui apprenaient cette langue à l'école, commençaient à rire de leurs parents en disant « Oui, mes parents ne savent même pas parler », etc. Et ils n'avaient pas préservé l'utilisation de la langue ukrainienne. Donc ils n'étaient plus dans le milieu ukrainien, et ils étaient mal acceptés dans l'autre milieu, puisqu'ils rejetaient, disons, la culture de leurs parents et leurs parents, qui ne maîtrisaient pas la culture belge, francophone ou flamande. Et eux-mêmes, avec leur nom de famille, n'étaient pas acceptés par les petits collègues ou par les futurs collègues dans leur carrière professionnelle belge. Je vais vous dire une anecdote intéressante. Je devais avoir 16, 17 ans à l'époque, et un Belge d'origine ukrainienne qui s'appelait Doroshenko était venu voir mon père, qui dirigeait la communauté ukrainienne, comme je l'ai dit à l'époque. Pour reparler un peu de l'Ukraine, il avait travaillé pendant longtemps au Congo, qui était une colonie belge à l'époque, et beaucoup de gens ont été vers le Congo pour enseigner dans les universités, pour travailler dans les mines, etc., donc développer l'industrie minière là-bas, ou les travaux d'infrastructure. Et ce Doroshenko est venu chez mon père parce que quelque part, il se sentait perdu. En fait, il était d'origine ukrainienne, mais il ne parlait plus l'ukrainien. Et les Congolais sur place, un jour, l'ont pris à part et lui ont dit: Écoute, c'est bizarre, les autres Belges avec lesquels tu travailles, ils n'ont pas l'air de vouloir beaucoup parler avec toi, de t'inviter, etc. Tu ne fais pas partie de leur groupe. Et alors, Dorchenko leur expliquait qu'il était d'origine ukrainienne. Et alors, ce sont les Congolais qui lui ont dit: Ben écoute, va rejoindre ta propre ethnie, tu t'y sentiras mieux. C'est quand même assez paradoxal et extraordinaire de voir donc le message qui lui a été envoyé. Et donc, il était venu chez mon père pour retrouver le contact avec son ethnie. Et il avait été invité chez nous à la fête de Noël, on a chanté les chansons traditionnelles de Noël, etc. Et cette personne, qui avait eu une belle carrière professionnelle, etc., avait été complètement coupée de ses racines et versait toutes les larmes de son corps pendant ce repas de Noël pour quelque chose qu'il avait perdu et qu'il ne retrouverait jamais.
Oui, c'est très parlant. C'est très parlant cette anecdote, cette histoire en fait. Voilà, donc le prix qu'on paye, voilà, quand on perd ses racines, en fait, on perd une identité, on devient en fait ni l'un ni l'autre. Donc on, voilà,
Exactement,
ni l'un ni l'autre.
exactement.
Donc
Et
et
c'est
donc
le
la
problème de beaucoup de groupes qui sont déplacés, je veux dire, ou qui émigrent. Très souvent, je vois ça avec la communauté marocaine ici en Belgique, ils ne sont pas toujours acceptés par la communauté belge et ils sont déjà rejetés par la communauté marocaine au Maroc. Et donc, ils se retrouvent entre deux chaises. Et s'ils ne font pas bien, s'ils ne recherchent pas bien cet équilibre, ils ne seront plus chez eux nulle part. C'est ça le gros problème. Donc il faut pouvoir conserver ses racines. Si on perd ses racines, on ne sait plus d'où on vient. Et il est très difficile alors de se créer des perspectives d'avenir qui soient solides. Donc il faut maintenir, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller.
Oui, tout à fait. Pourquoi la carrière de diplomate pour toi, voilà, voilà, une jambe ukrainienne, une jambe belge, pourquoi cette voilà ce choix professionnel pour toi?
Mais déjà, je reviens à ce que j'ai dit à propos des deux jambes. J'ai cherché des passerelles entre ces deux jambes. Donc, il fallait relier ces deux univers, ces deux mondes, ces deux communautés. Et alors, quand je commençais à aller à l'université, j'avais un ami très proche qui habitait Londres. Et donc, une fois par an, j'allais lui rendre visite pour recréer des liens et aussi pour essayer de perfectionner mon anglais. Et une soirée, comme on jouait souvent aux échecs, on écoutait de la musique rock en soirée, etc. Et un soir, comme il était d'origine ukrainienne également, on a parlé de l'Ukraine et on dit: Mais de quoi est-ce que l'Ukraine a besoin? On devait être ça devait être 71, 72, donc 71, 72, pour parler un français qui peut être compris par tout le monde. Et donc, on se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait aider cette Ukraine dont plus personne ne parle? On dit toujours que l'URSS, c'est la Russie, point. Et alors, il me dit, mais écoute, on a besoin de journalistes. Il faut que les journalistes parlent et écrivent à propos de l'Ukraine. Et donc, son père, qui était lui-même journaliste, lui a dit, non, 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 ne fais pas le journalisme, c'est pas une profession. Il faut que tu aies un bon diplôme professionnel. Donc, il était en faculté de chimie et physique. Il a réussi son examen, il a présenté son diplôme à son père, il lui a donné, et puis il dit: Ok, maintenant je vais faire le journalisme. Et moi, de mon côté, quand je parlais avec lui, je dis: Oui, mais on a besoin de diplomates. Dans les milieux diplomatiques et politiques, il faut qu'on parle de l'Ukraine. Autrement, il n'y aura jamais de progrès. Donc il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe aujourd'hui en URSS. Et donc moi, j'étais en faculté de droit, j'ai terminé le droit, j'avais une spécialisation en politique européenne, et j'ai toujours gardé cette ouverture sur l'international. Et petit à petit, bon, j'ai travaillé un peu pour la Commission européenne, l'Union européenne des associations de consommateurs. Donc, et puis petit à petit, je suis rentré dans le système administratif de la Belgique. J'ai travaillé au service juridique du ministère de l'Emploi et du Travail pendant 4 ans à Bruxelles. Donc, c'était dans le cadre fédéral. Et puis, je suis devenu, par un concours de circonstances et des amis qui avaient fait leur trajet parallèlement, ils m'ont repris comme conseiller au cabinet du ministre des Relations internationales de ce qu'on appelle la communauté française de Belgique, c'est-à-dire le gouvernement francophone, un des gouvernements francophones de Belgique. La Belgique est un pays fédéral, un système assez complexe. Et donc, j'ai été conseiller dans un cabinet du ministre chargé des Relations internationales, notamment. Et puis, j'ai commencé à faire une carrière internationale en tant que diplomate pour les gouvernements francophones de Belgique, c'est-à-dire la région Wallonne, la communauté française qu'on appelle aujourd'hui la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement francophone de Bruxelles. Donc voilà, je représentais la Belgique francophone à l'étranger.
Voilà, voilà le chemin qui est passionnant, mais qui n'était sans doute pas facile non plus. Est-ce que tu gardes, je suis certaine que tu gardes ce souvenir très vif de jour de l'indépendance de l'Ukraine, c'est-à-dire pour toi, pour ta famille, pour ton père, voilà, pour toute cette famille. Comment c'était perçu que voilà, enfin, l'Ukraine devient indépendante?
Oui, ben écoute, un peu comme tout le monde, disons de mon âge, on avait lu le livre d'Amalric, donc l'URSS éclatera en 1984. Voilà, on pensait à ça, on se dit tiens, c'est pas encore arrivé. Puis on a eu la perestroïka, la glasnost avec Gorbatchev, puis on a eu aussi un livre d'Hélène Carrère-Dancos, l'Empire éclaté. Donc les gens commençait à parler de cette thématique, en tout cas ceux qui s'intéressaient à cette thématique, voyaient différents signaux, percevaient certaines choses, percevaient une évolution. Et quand l'Ukraine est devenue indépendante, il se fait que quand j'étais au cabinet du ministre des Relations internationales, une personne d'Amnesty International était venue rencontrer le secrétaire du ministre pour demander au ministre de les soutenir avec un prisonnier politique. Et il se fait que ce prisonnier politique était ukrainien. Et comme au cabinet du ministre, je suivais notamment le dossier des pays d'Europe centrale et orientale, on a envoyé cette personne d'Amnesty International et il s'occupait de Levko Loukianenko. Et alors, je demande à ce type, tiens, mais en quelle langue est-ce que vous correspondez? Alors, le type me dit, on correspond en russe. Et je lui dis, pourquoi est-ce que vous ne correspondez pas en ukrainien? Alors, le type me regarde un peu étonné. Il dit, pourquoi vous connaissez quelqu'un qui pourrait parler ukrainien ou écrire en ukrainien? Je lui dis, oui, moi-même, je pourrais le faire. Ah, il m'a regardé vraiment de façon très, très bizarre. Puis, il dit, bon, ben, on va le faire. Donc, nous avons commencé à correspondre avec Loukianenko en ukrainien. Et quand Loukianenko a été libéré par l'URSS, le premier voyage qu'il a fait à l'étranger était un voyage à Bruxelles. Et j'ai demandé à mon ministre alors de pouvoir accompagner Loukianenko dans tous les contacts politiques qu'il allait avoir. Et donc j'étais son interprète lors de rencontres avec le futur ministre des Affaires étrangères fédéral de la Belgique, Monsieur Marc Eyskens, qui était sénateur à l'époque. J'ai été à l'International de la démocratie chrétienne, j'ai été rencontré avec différents présidents de partis belges au niveau fédéral, etc. Et quand l'Ukraine préparait son indépendance, j'ai effectué un premier voyage en Ukraine entre la proclamation de la souveraineté et la proclamation de l'indépendance. Donc c'était fin avril, début mai 1991. Donc j'ai reçu une invitation de Levko Loukianenko à venir, à participer au congrès de l'Union ukrainienne d'Helsinki, qui se transformait en parti politique qu'on appelait le Parti républicain ukrainien. Et donc j'ai dit à mon ministre, écoutez, j'ai reçu cette invitation, je pense qu'il serait important et intéressant d'envoyer quelqu'un en Ukraine. La Belgique n'avait pas d'ambassade en Ukraine, il n'y avait qu'une ambassade à Moscou. Et je pourrais alors faire un rapport qu'on pourrait transmettre au ministère fédéral des Affaires étrangères pour leur dire quelle est notre perception de la situation. Le ministre m'a dit « Ok, tu as carte blanche, pendant une semaine tu peux y aller ». Et donc c'est comme ça que j'ai été pour la première fois en Ukraine et j'ai senti vraiment qu'on était au bord de l'implosion de l'URSS, parce que l'Ukraine avait clairement choisi son chemin. Et donc, quand l'Ukraine est devenue indépendante, ou a proclamé son indépendance, après la signature des accords de Bilovège, puis le 24 août 91, donc c'était quelque chose d'important, et vraiment, d'un côté, c'était une joie énorme, et d'un autre côté, on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, notre objectif qui était d'avoir une indépendance, de retrouver une indépendance pour l'Ukraine, bah, maintenant, il est révisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les organisations ukrainiennes qu'on avait développées ici, dans la partie libre du monde, puisque l'objectif est atteint ? Et ce n'est qu'après qu'on a vu, donc on essaie tout d'abord de recréer tous les liens possibles avec l'Ukraine, avec la communauté ukrainienne. Moi, je suis aussi musicien, donc musicien de rock, donc j'essaie de voir s'il y avait des potes qui jouaient de la musique rock en Ukraine, etc. C'était une époque, je vais dire, qui était un peu euphorique jusqu'au moment où on a vu que les choses ne sont pas tout à fait comme on l'imaginait. Les mentalités des gens ne sont pas les mêmes. On a accueilli quelques Ukrainiens qui venaient ici en Belgique, par exemple. La seule chose qui les intéressait, c'était des choses purement matérielles, c'est acheter des voitures. Ils connaissaient les catalogues de vente de tous les produits. Ils connaissaient le prix de chaque produit, les modifications techniques de chaque produit. Moi, je ne me suis jamais intéressé à ces choses-là. Je me dis, mais ces mecs, ils sont fous, quoi. C'est pas possible. Donc, on voyait quel était l'impact du capitalisme. Pas du capitalisme, du matérialisme plutôt, et aussi la soif de ces gens d'acquérir tous ceux dont ils ont rêvé et qui maintenant se présentaient petit à petit à eux. Donc c'était vraiment le choc de deux cultures, de deux systèmes, je veux dire, économiques, politiques, etc., qui se faisait, et donc il a fallu accorder des violons. Et il faut donner du temps au temps, tout ne peut pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Il faut que les gens s'adaptent, que les gens circulent. Je dis, si j'avais été milliardaire, j'aurais donné un certain montant à chaque Ukrainien en lui disant, ok, vous partez à l'étranger pendant 3 mois, vous regardez, vous apprenez, et puis vous rentrez au pays et vous commencez à travailler.
Oui, il ne faut pas oublier que c'était aussi les années, donc la première décennie après la chute du RSS, c'était aussi une décennie très, très, très difficile pour les habitants de l'Ukraine, mais partout en fait. Donc c'était la pauvreté, voilà, l'inflation galopante, voilà, les problèmes, il y avait des coupures d'électricité. J'étais enfant à cette époque-là, je me rappelle que voilà, c'était une époque très difficile. Et donc voilà, les gens avaient soif de l'Europe. Il y avait aussi les visas à cette époque-là, donc on ne pouvait pas circuler librement. Donc c'est vrai que voilà, cette population sortait de 7 décennies en fait de totalitarisme,
de prison.
Donc, oui. De prison, voilà. Donc c'est des gens sortis de prison qui ont perdu, plusieurs ont perdu leur identité, leur mémoire, leur dignité aussi en quelque sorte. Donc tout ceci aussi vrai, et donc il fallait du temps, et il fallait du temps, il fallait quelques décennies encore pour que voilà, cette idée de la dignité d'ailleurs revient en 2014 lors de cette révolution de Maïdan, et lorsque voilà, l'Ukraine fait le tournant décisif vers cette nouvelle histoire qui commence et qui est aussi tragique pour l'instant, puisque nous sommes en guerre, une guerre très cruelle de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, je voudrais que tu en parles de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je sais que tu la qualifies de la guerre européenne, dans le sens que ce n'est pas uniquement l'Ukraine qui est visée, mais c'est tout un système de croyances, de mode de vie.
Poutine lui-même qui le dit. C'est Poutine lui-même et ses idéologues qui disent que ce n'est pas uniquement une guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre, donc ils appellent ça une guerre de dénazification de l'Ukraine. Et ils disent eux-mêmes donc, que ce sont les Européens qui sont responsables de cette nazification de l'Ukraine. Donc c'est une guerre contre l'Europe également, puisque l'Europe est responsable de cette nazification. Nazification, ça veut dire... d'avoir donné l'envie à l'Ukraine de devenir un pays réellement démocratique, de s'intégrer à l'Union européenne et de promouvoir les valeurs européennes, qui sont celles de liberté, d'égalité, de démocratie, etc. Donc voilà, c'est Poutine lui-même qui le dit, ce n'est pas moi qui appelle ça une guerre européenne. La guerre est européenne parce que Poutine la considère comme telle, et ce n'est pas une guerre que contre l'Ukraine. Le problème, c'est que l'Ukraine est livrée pratiquement... seule face à cette guerre, bon, seule, je veux dire, c'est elle qui encaisse tout le poids de cette guerre, qui subit tout le poids de cette guerre, Heureusement qu'il y a une aide matérielle, financière, militaire, de tout un ensemble de pays, une quarantaine de pays, donc dans le cadre de Rammstein, une aide politique de l'Union européenne, des États-Unis, d'autres pays également, du Royaume-Uni, donc qui n'est plus ni Union européenne ni États-Unis, rappelons-le. Donc c'est une aide sans laquelle l'Ukraine ne pourrait pas tenir. Mais cette aide, c'est une aide matérielle. Alors que l'Ukraine paye cette guerre de son sang. Elle paye cette guerre en envoyant au front les gens les meilleurs qu'elle puisse avoir. Donc ce sont les générations qui devraient développer l'Ukraine, qui devraient apporter un futur à l'Ukraine. Le nombre de personnes, de jeunes personnes qui sont mortes au front, qui ne pourront plus faire d'enfants, qui ne pourront plus avoir de famille, qui ne pourront plus, je veux dire, s'intégrer et développer l'économie ukrainienne, c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que dans ta perception, dans ta vision, dans ton entourage, tu continues à travailler pour l'Ukraine, même si tu es à la retraite, mais tu restes très actif, mais voilà, en essayant de porter ce message aussi en Europe. Est-ce qu'il y a une prise de conscience progressive du fait que oui, que la Russie c'est une menace directe non seulement pour quelques régions de l'Ukraine, c'est pas une guerre de territoire, mais c'est une guerre qui menace directement des citoyens en Europe.
Alors il y a différentes choses à dire à ce niveau-là. Donc tout d'abord, au plus proche on est de la frontière ukrainienne, en plus on ressent la guerre et les risques de débordement d'une telle guerre sur le territoire, soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN. Ça c'est une chose. Au plus on en est éloigné, bon, au plus on se sent entre guillemets protégé. Quoi qu'un missile, quand on l'envoie, il franchit très rapidement quelques milliers de kilomètres, hein, donc ce n'est pas un problème. Deuxième chose, la première réaction. Quand le 24 février, les troupes russes ont commencé à envoyer l'Ukraine, est une réaction émotive. Et donc, on peut tenir un certain coup, une certaine longueur, une certaine durée sur l'émotion, mais après, l'émotion, elle s'estompe. Et donc, il faut, encadrer cet élément émotif par un élément rationnel. Voir pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait. Et quels sont les vrais enjeux de cette guerre, et comment réagir, faut-il la contenir, comment la contenir, etc. Et donc là, ça devient de plus en plus difficile, évidemment, puisque dans un système démocratique, les gouvernants sont obligés de tenir compte aussi du point de vue de la population, de l'opinion publique. Et nous savons que dans un système démocratique, l'opinion publique peut être travaillée par 36 000 facteurs et éléments donc qui sont même opposés, etc., et qui peuvent détruire cette démocratie ou infiltrer cette démocratie de l'intérieur et l'affaiblir. Et c'est ce que fait la Russie avec des réseaux comme Russia Today ou Sputnik, etc., sans parler d'autres éléments ou agents d'influence qui sont payés grassement pour promouvoir des discours lénifiants ou qui excuseraient ou présenteraient la guerre de la Russie. On sait que la Russie ne parle pas de guerre d'abord, mais d'opération spéciale, comme quelque chose qui a été causé par les Ukrainiens, qui a été provoqué par l'OTAN, etc., etc. Donc on connaît très bien ce genre de discours. Donc je crois qu'il faut être attentif à cela et maintenant sortir, je veux dire, de l'élément émotionnel ou émotif, et aller au fond de la problématique et voir quels sont les véritables enjeux et comment on veut y répondre.
Oui, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on discute souvent du fait que voilà, le monde démocratique, donc c'est une guerre entre d'un côté le modèle démocratique et de l'autre côté un modèle autoritaire, voire totalitaire. La Russie n'est pas seule non plus. On voit depuis sa alliée, on voit des drones iraniens qui n'étaient pas là au départ, mais qui sont là maintenant. On voit aussi des informations sur les armements qui proviennent à Russie depuis Corée du Nord. Donc voilà, on voit tout un axe du mal, peut-être une expression...
De pays un peu... autoritaires, en fait, ou dictatoriaux.
Oui.
C'est intéressant de voir que les pays qui soutiennent la Russie aujourd'hui ne sont pas des pays démocratiques.
Oui, donc si on démontre des faiblesses, je veux dire, nous, le monde démocratique, le monde libre, et si on démontre des faiblesses, ça sera une invitation à cet axe du mal de poursuivre l'agression. Donc si on permet à Poutine gagner en Ukraine, ou bien avoir un résultat qu'il pourrait présenter comme victoire, même si il serait modeste, ça serait une invitation très directe à d'autres de poursuivre des agressions similaires. Donc c'est le moment d'être fort.
Je crois que si on laisse Poutine gagner cette guerre à sa manière, ça voudrait dire que partout, ce sera la force qui réglera les conflits. Et donc, celui qui est le plus fort imposera toujours sa volonté. Et donc, ça, on ne peut pas se le permettre, puisqu'il y a quand même, nous vivons dans un système qui a été bâti sur des principes de droit international. Et donc, il y a des règles à respecter dans ce monde. Si on veut vivre de façon, je veux dire, harmonieuse, ou plus ou moins harmonieuse dans ce monde, si on commence à bafouer les règles qu'on a établies pour avoir une coexistence plus ou moins pacifique, alors tout est permis. Et donc, il n'y aura plus aucun ordre au niveau mondial, et ce sera la loi de la jungle, et la loi du plus fort.
Merci beaucoup, Zinon, pour cet entretien absolument passionnant, fascinant. Merci pour ton analyse et pour ton témoignage, pour cette histoire de la famille qui est incroyable. Merci beaucoup.
Merci aussi.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Zinon Koval, diplomate, délégué général honoraire du gouvernement francophone de Belgique, Wallonie-Bruxelles. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.